dans la fabrique médiatique. Ce matin, deux journalistes étrangers, qui plus est transalpins, installés en France pour couvrir l'actualité de notre pays. Richard Verly, un habitué de la fabrique médiatique. Bonjour Richard.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps. Et une nouvelle venue, Anaïs Ginori, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue à vous. Vous êtes la correspondante à Paris pour le quotidien italien La Repubblica. Alors, l'actualité cette semaine, notamment en France, en tous les cas dans les journaux français, a été dominée par trois principaux sujets. Un, l'agression verbale antisémite à l'encontre d'Alain Finkielkraut et les rassemblements et condamnations qui ont suivi. Deux, les rebondissements dans l'affaire Benalla, avec notamment sa mise en détention. Et puis trois, le scandale de la pédophilie dans l'Église, avec la sortie en France du film de François Ozon. Et bien sûr, au Vatican, le sommet historique qui se tient jusqu'à demain. Est-ce qu'on peut dire déjà que c'est, du point de vue journalistique, une semaine riche, Richard Verly?
Ah oui, incontestablement, et je crois qu'on va, on va en avoir d'autres encore. L'élément fort de cette semaine, pour moi, ça a quand même été ce rebondissement à nouveau autour de l'affaire Benalla, non seulement parce qu'il se retrouve en détention, mais surtout parce que le Sénat fait un rapport. Et le Sénat fait un rapport qui dépasse, au fond, la personne d'Alexandre Benalla et qui s'interroge sur le fonctionnement de l'Élysée, sur le fonctionnement de la présidence de la République et qui fait un certain nombre de suggestions à Emmanuel Macron dans la pratique du pouvoir que doit avoir un président de la République. Et il y a cette phrase notamment sur mettre fin aux collaborateurs officieux de la présidence. Personnellement, j'ai trouvé ça très fort. Je pense que là, il y a la preuve que le contrôle parlementaire existe en France. On s'interroge beaucoup en France sur le rôle du Parlement. Est-ce qu'il est suffisamment fort? Eh bien, le Sénat, je sais que ça a été pas mal contesté et commenté, mais je trouve que le Sénat, avec ce rapport, démontre qu'un contrôle parlementaire existe et c'est plutôt une bonne nouvelle.
Anaïs Ginori.
Oui, c'est vrai que cette commission d'enquête, le rapport est très très intéressant et très fort. Nous, en Italie, par exemple, on a souvent des commissions d'enquête, mais on est une république parlementaire, donc il y a vraiment un rôle de contrôle du Parlement et qui s'exerce très bien et qu'on est habitué à voir. Tandis qu'en France, j'ai l'impression que cette intervention du Sénat à travers cette commission d'enquête est assez inédite, en tout cas dans l'effet qu'elle provoque. Et c'est vrai que ça dans les faits, ça devient un contre-pouvoir que peut-être on ne voyait pas auparavant et qui dans cette situation est aussi une position politique à Macron qu'il n'a pas du tout, parce qu'il a quand même, malgré tout ce qui peut être contestation et affaire qu'il subit en France, d'un point de vue politique, il a quand même une majorité très solide. Alors ce rôle du Sénat, qui est un rôle constitutionnel, mais qui a été quand même renforcé avec cette commission d'enquête et ce rapport, c'est intéressant. Et puis c'est vrai que même d'un point de vue d'une analyse aussi politique, c'est un peu le vieux monde qui reprend sa revanche sur le nouveau monde. Le Sénat, c'est quand même l'image un peu de la vieille politique par rapport à ce que a voulu représenter Macron avec son élection. D'ailleurs, éliminer ou en tout cas réformer le Sénat, les sénateurs, et fait partie des promesses électorales de Macron. Et tac, ce qui se passe, c'est que c'est vraiment le Sénat qui inflige à Macron, à l'intérieur des institutions, une des premières, défaites, ou en tout cas critiques fortes qu'il subit.
Richard Verly.
Oui, il y a au-delà de l'équilibre du pouvoir en France, je trouve quelque chose qui est fondamentalement en train de changer, c'est-à-dire que ceux qui s'interrogent sur le fonctionnement de la Ve République, ce n'est plus seulement les Gilets jaunes. On a eu l'impression ces derniers temps que la critique du système, avec notamment cette volonté d'apporter un référendum, entre autres, elle venait de la rue. Or là, on voit que, y compris au sommet de l'État, donc dans les institutions majeures comme le Sénat, il y a une vraie réflexion sur il faut présider, il faut gouverner ce pays différemment. Alors encore une fois, il ne faut pas faire de ce rapport une pierre angulaire d'une grande réforme de la Ve République, je ne pense pas, mais moi je trouve très intéressant que maintenant, il y ait un certain nombre de recommandations qui soient faites, et c'est ce que j'ai écrit dans Le Temps, je trouve qu'Emmanuel Macron ferait plutôt bien de les appliquer.
Et précisément, j'allais vous demander si l'un et l'autre vous aviez écrit sur ce sujet. Et de quelle façon, puisque le rôle des journalistes, alors en particulier de Mediapart et du Monde dans cette affaire de Benalla a été très important. Comment vous vous avez anglais, Anaïs Ginori, vous avez écrit dessus?
Oui, ben, le fait, c'est que cette affaire Benalla, ça commence quand même avec un, on va dire, presque un fait divers, dans le sens de quelqu'un qui est proche du chef de l'État, enfin, qui est responsable de sa sécurité, et qui se déguise, on va dire, entre guillemets, en policier, et frappe un manifestant, ce qui est déjà grave. Mais bon, c'était le premier épisode, et puis ça a pris dans le temps des proportions immenses, parce que ça s'est transformé après par la protection dont a bénéficié Benalla après ce fait, et ça s'est transformé en une impunité dont il a joui au sein de l'Élysée.
C'est un feuilleton, et d'ailleurs dans un de ses éditoriaux, Le Monde oui. le revient, après Benalla jouant les cow-boys place de la Contrescarpe, puis au Jardin des Plantes, ce fut Benalla et la mystérieuse disparition de son coffre-fort oui. privé, Benalla licencié par l'Élysée le 23 juillet 2018, mais conservant étrangement pendant des mois ses passeports diplomatiques, Benalla et son intervention présumée alors qu'il était encore en fonction à l'Élysée dans la négociation d'un contrat de sécurité avec un oligarque russe, et Benalla et ses intrigants voyages à l'étranger, point de suspension, nous dit Le Monde. Donc il y a vraiment un côté feuilleton.
Feuilleton, donc voilà, vous avez évoqué, ça devient aussi une espèce de diplomatie parallèle qu'il conduit après qu'il soit sorti de l'Élysée, les contacts qu'il garde avec le président, le sens d'impunité qui ressort à travers les audios qui ont été diffusés par Mediapart, et cette histoire quand même des contrats avec les oligarques russes, qui à mon avis est très grave, parce que c'est quand même quelque chose qui, comme a dit le rapport du Sénat, laisse craindre que la sécurité du président était quand même un risque avec une puissance étrangère, enfin en tout cas des soupçons. Et ça, le vrai point, moi je pense, c'est que voilà, il faut comprendre combien le président Macron était au courant de ces choses, s'il l'était, s'il n'était pas, est-ce qu'il a été entre guillemets une victime ou est-ce qu'il a été conscient.
Et c'est toutes ces questions-là que vous soulevez dans vos papiers pour La Repubblica.
Voilà, exactement. Et ce que de toute façon, on a compris, c'est que Benalla, c'est vraiment le cœur du pouvoir, et ça met en cause, comme l'a montré le rapport du Sénat, le cercle très petit qui entoure le président Macron et donc tous ses plus fidèles collaborateurs qui d'ailleurs vont les uns et les autres probablement partir.
On insiste, Richard Verlis, sur le scandale, sur l'affaire d'État, sur quoi ?
Alors, pas moi dans le temps, j'ai plutôt dit, pas cette fois-ci, pas cette semaine, mais dans les semaines précédentes, que je pense que ce n'était pas une affaire d'État au sens où il y a eu des dysfonctionnements majeurs, on le voit au sein de la présidence de la République, mais je ne pense pas, d'après ce que j'ai pu lire, que la sécurité de la France ou que la pratique du pouvoir en France a été mise en cause. Par contre, ce qui est clair, c'est que le fait que cette affaire se soit prolongée, le fait que, comme vient de le dire Anaïs, on découvre que, en fait, Alexandre Benalla avait plusieurs cordes à son arc, en quelque sorte. Il était un conseiller actif dans pas mal de domaines, ça interroge. Et dans un pays où, on le sait quand même, la présidence de la République a quand même toujours été entourée d'une espèce de nuage de collaborateurs secrets, de barbouzes, c'est un peu une habitude quand même en France.
Et ça vous choque en tant qu'observateur étranger ?
Ah, je trouve que c'est complètement anormal. Autant je pense qu'il y a toujours dans un État une zone d'ombre, qu'en général remplissent des services qui sont spécialisés pour ça, autant qu'il y ait traditionnellement en France à la présidence de la République des sortes de barbouzes chargés carrément de régler les comptes personnels du président. On pense à ce qui s'est passé sous Charles de Gaulle, avec Jacques Foccart, sous François Mitterrand. Je trouve que ça participe d'une culture monarchique extrêmement aujourd'hui déplacée par rapport aux revendications de transparence et d'intégrité d'une bonne partie de la population.
Anaïs Ginori, on a l'impression presque que ça choque plus nos amis voisins de la France que les Français eux-mêmes. Vous êtes choquée autant que Richard Verlis en tant qu'Italienne ?
Oui, je suis choquée. Je pense quand même que ça a beaucoup d'écho en France aussi. D'ailleurs, enfin voilà, comme vous l'avez rappelé, c'est important de souligner que ça a été quand même la presse qui a fait émerger cette affaire. Et je pense que voilà, nous ça nous choque, mais ça a quand même impacté, je crois, l'image du président. Et d'ailleurs, on le voit dans les manifestations des Gilets jaunes, il y a beaucoup de slogans aussi qui citent l'affaire Benalla, donc c'est pas si anodin que ça, même dans la population.
Eh bien, vous me tendez une perche vers notre deuxième sujet. On vous retrouve juste après cette petite virgule. petite virgule pour rappeler que nous sommes en compagnie de Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien suisse Le Temps, et de Anaïs Ginori, correspondante à Paris du quotidien italien La Repubblica. Deuxième temps, effectivement, deuxième sujet majeur de cette semaine, l'agression verbale antisémite dont a été victime le philosophe et producteur de France Culture Alain Finkielkraut, en marge de la 14e manifestation des Gilets jaunes samedi dernier à Paris. Est-ce que vous en avez parlé, vous, dans vos journaux respectifs, Richard Verly?
Oui, parce que ça traduit quelque chose qui, je crois, malheureusement touche la plupart des pays européens. En tout cas, ça touche la Suisse également. Il y a une recrudescence d'agressions verbales antisémites, problématiques également en Suisse. Je pense au rapport qu'il y a un rapport annuel sur l'antisémitisme en Suisse, et il montre que effectivement la parole se libère, si je puis dire, mais dans le très mauvais sens. Et ce qui se passe en France, c'est la colère dirigée contre un homme, par ailleurs par un groupe de gens de plus en plus radicaux et même radicalisés, si j'ai compris, puisque celui qui a proféré ces insultes semble avoir été suivi par la police, ou il était connu des services de police pour avoir été pas mal dans les eaux de l'islam radical. Donc là, il y a un énorme problème. Il y a un énorme problème. Est-ce que c'est une mobilisation générale et la manifestation qui a suivi qui va permettre de le régler? Malheureusement, je ne le pense pas, parce qu'on sait que les manifestations, bien, on les oublie, et on sait que les écarts verbaux demeurent. Donc il faut vraiment une prise de conscience, il faut vraiment que des voix s'élèvent pour tenir bon, arrêter cette haine. Et alors là, quand même, peut-être une chose, est-ce que, bien sûr, l'antisémitisme est une haine tout à fait particulière, encore plus détestable, mais ce qui est frappant, encore une fois, en France, je l'ai dit souvent, même je crois à ce micro, c'est le niveau de colère, le niveau de haine à tous les niveaux. Quand on est dans les manifestations, on entend des choses qui sont juste délirantes. L'agression verbale est devenue un rituel, et c'est vrai que qu'à un moment, Alain Finkielkraut, qui par ailleurs est une personnalité publique, dont certaines prises de position sont controversées, eh bien, il prend ça dans la figure, alors que lui-même était en sympathie avec les Gilets jaunes, ou en tout cas, il avait exprimé...
Au début du moment.
Voilà, il avait exprimé son intérêt et sa compréhension. Je trouve que c'est particulièrement injuste pour la personne. Et deux, ça prouve que même le statut de l'intellectuel n'est plus respecté, et qu'on n'accepte plus aujourd'hui que des intellectuels et des positions libres et qui fassent débat.
Anaïs Ginori, il y a deux faits concomitants, hein, en fait. Hein, les insultes contre Alain Finkielkraut samedi dernier, et puis l'augmentation des actes antisémites de 74% en France l'année dernière. Comment avez-vous parlé, vous, de ces événements? Je crois que vous avez d'ailleurs interviewé Alain Finkielkraut.
Oui, on a fait un entretien avec Alain Finkielkraut. On l'a rencontré, enfin, je l'ai rencontré chez lui, mardi. C'est vrai que, comme disait Richard, la montée de l'antisémitisme est malheureusement quelque chose qu'on constate un peu partout en Europe, en Italie aussi, les agressions et verbales ou physiques antisémites augmentent depuis déjà 2-3 ans. Ce qui est vraiment particulier avec ce qui se passe en ce moment en France, c'est déjà le fait que cet antisémitisme puisse, en quelque sorte, même si je pense qu'il est vraiment marginal à l'intérieur des Gilets jaunes, mais quand même, avec ces mouvements de contestation et disons de rue, il puisse avoir une espèce de parole libérée, parce que quand on voit le vidéo de Finkielkraut, ce qui est quand même choquant, c'est que c'est des insultes, c'est pas les tags qu'on fait la nuit en cachette, c'est vraiment des insultes proférées devant tout le monde, en public, à visage découvert. Donc ça, c'est vraiment l'idée aussi qu'on peut maintenant, en 2019, dire sale sioniste de merde, ou ce qu'on a entendu.
Mais vous, pardon, vous avez plutôt choisi, peut-être pas vous d'ailleurs, je ne sais pas, je vous pose la question, d'interviewer Alain Finkielkraut parce qu'il est connu en Italie, il est lu en Italie, ou parce qu'il est symptomatique de quelque chose, plutôt que de faire un sujet plus global sur la montée de l'antisémitisme ou la colère dont parlait Richard Verly dans votre journal?
Alors, d'abord, je pense que, comme disait Richard, c'est un intellectuel, donc ça change quand même la donne. C'est une agression antisémite comme beaucoup d'autres, mais c'est quand même une agression antisémite envers un intellectuel qui a raconté d'ailleurs son histoire, aussi ses origines, fils de juifs polonais, voilà. Donc il a quand même une valeur symbolique, donc c'est pour ça qu'on s'est intéressé à lui. Après, je pense que, et c'est ce qui est ressorti dans l'interview qu'on a publié sur La Repubblica, Finkielkraut dénonce aussi quelque chose qui est objet du débat, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs il y a en tout cas deux antisémitismes. Il y a un antisémitisme qui est, on va dire, un fait écho aux années 30, nationaliste
d'extrême droite traditionnel,
voilà, oui, qu'on connaît en Italie et je pense en Suisse. Enfin, c'est un nationalisme, en tout cas, un extrémisme de droite et xénophobe qui existe un peu partout en Europe. Et ce qui est particulier à la France, et ce que dénonce Alain Finkielkraut, c'est un antisémitisme qui est lié à plutôt
à l'islam
radical. Mmh. Et d'ailleurs, bon, voilà, ce qu'ajoute Finkielkraut et certains autres intellectuels ou politiques, c'est que cet islam radical est aussi toléré, sinon à une complicité de l'extrême gauche. Donc c'est on va dire un antisémitisme rouge.
Il y a aussi des débats en France pour savoir si sur l'évolution du mouvement des Gilets jaunes, puisque encore une fois cette agression a eu lieu en marge de cette manifestation, sur l'évolution du mouvement, la question de savoir si ce mouvement est intrinsèquement antisémite ou s'il est victime de dérives et de manipulations radicales. Vous rendez compte de ces débats, Richard Verli?
Oui, alors est-ce qu'il faut lier antisémitisme aux Gilets jaunes? Là, j'aurais quand même un problème.
En France, certains le font.
Alors, il se trouve que les manifestants qui ont pris à partie Alain Finkielkraut défilaient en Gilets jaunes à Paris. Mais qu'il y ait une radicalisation du mouvement, que les éléments qui continuent de manifester chaque samedi soient les plus radicaux, ça me paraît clair. Qu'il y ait chez ces éléments radicaux une volonté, au fond, de véritablement faire poursuivre le niveau de la colère, de s'exprimer par la colère, ça me paraît clair aussi. Juste une chose, là où pour le coup, vu de l'étranger, je trouve c'est bien qu'Emmanuel Macron ait mis court, c'est l'idée d'avoir ce délit d'antisionisme. Et Emmanuel Macron est très vite intervenu parce que je pense que si on avait ouvert cette piste-là, alors là, dans le débat français, ça devenait très très inflammable.
Et si l'on suit la médiatrice de Radio France, certains auditeurs se sont émus du traitement médiatique, en particulier sur nos antennes, en disant qu'on en avait parfois trop fait concernant Alain Finkielkraut par rapport justement à d'autres agressions ou d'autres faits antisémites qui ont eu lieu ces derniers mois, ces dernières semaines. On va passer juste au dernier sujet de cette semaine, rapidement avec vous, surtout Anaïs Ginori, puisque c'est demain que s'achève la conférence inédite au Vatican qui rassemble des évêques du monde entier pour trouver des moyens de lutter contre les abus sexuels au sein de l'Église. En même temps, en France, est sorti le film de François Ozon, Grâce à Dieu, sur l'affaire Prena, qui est mise en examen pour abus sexuels et dont le procès doit avoir cours dans l'année. Et une enquête de Frédéric Martel intitulée Sodoma, sur la prégnance d'une homosexualité cachée au Vatican, et il ne faut pas voir de lien, de cause à effet avec la sortie de ce livre et ce qui se passe par ailleurs au Vatican. En France, on en parle beaucoup, mais c'est un sujet qui touche l'Église et donc le monde entier. Et précisément, Anaïs Ginori, vous avez interviewé Frédéric Martel, plus que couvert le sommet en Italie, puisque vous êtes correspondante en France, vous traitez donc des sujets français. Comment ce livre a-t-il été reçu en Italie? Comment les journaux, justement, ont couvert la sortie de ce livre?
Alors oui, nous on a publié, évidemment on couvre le sommet au Vatican à Rome, mais moi j'ai fait une interview à Frédéric Martel pour justement raconter cette enquête qui est quand même une enquête très étoffée et très riche, qui a pris 3-4 ans de travail je crois. Et l'accueil a été assez fort en Italie. Beaucoup de personnes ont écrit que c'est un livre courageux, un livre qui quand même ouvre une fenêtre sur une réalité qu'on soupçonnait ou en tout cas que beaucoup ne connaissaient pas. Et donc après, il y a certains qui disent que voilà, c'est peut-être dans une certaine manière, il fallait aller plus loin dans documenter certains témoignages. Mais je crois que l'accueil est vraiment favorable. Et d'ailleurs, l'éditeur Feltrinelli qui publie Sodoma est un des éditeurs qui a travaillé le plus avec Martel dans la construction de ce livre.
Et peut-être un peu compliqué quand même, justement, au moment où se tient ce sommet, de ne pas faire de confusion entre d'un côté les abus sexuels et la pédophilie, puis de l'autre côté cette homosexualité cachée au Vatican. Merci beaucoup à tous les deux, Richard Verli et Anaïs Ginori. Merci à vous. On vous retrouve, non, on vous retrouve pas, on se retrouve après le journal de 8h, puisqu'il est 8h sur France Culture.